Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Alex Lutz et Bruno Sanchez.
Alors si jamais les gens ne vous connaissent pas ou ont des doutes sur qui sont ces deux hommes qu'on va entendre dans le podcast, on a prévu des petites présentations sous forme d'acrostiches. On commence avec Alex.
Oui.
A comme acteur, réalisateur, humoriste, metteur en scène, romancier. C'est bien simple, vous le connaissez forcément si vous aimez le talent et l'humour.
Elle comme la revue de presse de Catherine et Liliane, l'émission hilarante dans laquelle il interprétait aux côtés d'un certain Bruno Sanchez, une secrétaire qui n'a pas la langue dans sa poche.
E comme émouvant, son dernier film Une nuit qu'il a réalisé dans lequel il joue.
X comme Xiste, c'est une galerie couverte dans laquelle les gymnastes s'exerçaient pendant la Grèce antique, mais il pourrait très bien s'en servir pour exposer ses deux Molières de l'humour et son César du meilleur acteur, par exemple.
Bah, c'est super, oui.
C'est des petits prénoms, hein, voilà, ça va vite.
Ça, c'était
c'est
Alex.
Bruno. B comme Bambin, à l'âge de 9 ans, il commence à tourner dans des publicités.
R comme revue de presse de Catherine et Liliane, l'émission hilarante dans laquelle il interprétait aux côtés d'un certain Alex Lutz, une secrétaire qui n'a pas la langue dans sa poche.
U comme ultra varié sa palette d'acteurs, il peut aussi bien jouer le rôle d'un chien que celui d'un lutin ou encore un patron harceleur dans Baltringue, la série de Justine Lozard.
Je me demande bien qui c'était.
Je me demande où elle est passée celle-là.
N comme n'enfreignez pas la loi devant Gilles Vendreau, c'est le policier qu'il interprète dans la série HPI qui cartonne sur TF1.
O comme oh mais quel bonheur de vous avoir tous les deux, on est trop contents.
Oh, trop cool.
C'est bon, bah bisous.
Ouais. Allez, on y va.
Ben merci. Bonne journée.
À vous, pour nous, du coup, les acrostiches.
Ouais. Ah ouais, c'est dur. Attends, c'est son
nom. J.
J'avoue, Justine.
J'ai vraiment
Vraiment très content.
Ah, ils sont trop bien, vos acrostiches.
Donc, l'acrostiche, c'est la première lettre.
Et après, faire tout un truc. Ah ouais, génial.
Tu vois comme vous étiez quand vous étiez petit. Peut-être, ou alors, on n'est pas de la même génération, tout à fait, mais big bisous bien baveux, vous voyez. Ou pas, avec un gros B.
Ah bah non, c'est pas un acrostiche est... du coup. Ouais. Déjà non, mais en plus, on n'est pas de la même génération. Sans vouloir.
Non, mais
c'est
pas.
On a 10
presque, ans de plus.
T'es une bâtarde. On a 12 ans
d'écart. 2 ans, c'est 2 ans.
T'es une bâtarde.
Pardon, ouais, tout va
deux
mal. 2
ans, ans, c'est 2 ans. Écoute,
c'est un mauvais début. Tout commence très très mal.
Est-ce que le grand public vous a découvert avec Catherine et Liliane?
Ah
toi,
oui.
Toi, tu jouais déjà beaucoup, Alex, ou pas?
Oui, mais j'avais, j'avais un petit peu fait des trucs et tout ça, mais c'est vrai qu'avec Catherine et Liliane, il s'est quand même vraiment, vraiment passé quelque chose.
T'avais déjà fait OSS?
Oui, j'avais déjà fait OSS, ouais. J'avais déjà fait mise en scène de
Sylvie
Joly, des trucs comme ça.
J'avais un spectacle qui marchait
déjà très
bien.
Mais c'était pas... vraiment pour le grand public. Et là où on s'en rend compte d'ailleurs en spectacle, c'est quand tout d'un coup... ce qui se passe à Paris ou frémit un peu à Paris se passe aussi très 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 bien en tournée. Moi je suis fou d'aller en tournée.
Quand tu passes à la télé, il y a un vrai impact.
Oui, c'est quand même
la,
c'est
comme villes,
voilà, ça il y a un truc un vrai truc de maillage territorial.
Après Alex, c'est quelqu'un qui va vraiment à la rencontre de de plein de villes et il aime faire ça.
Ah, j'adore ça, ouais.
D'aller rencontrer les gens et tout, donc puis son spectacle est très très fort.
Oui.
Et c'est beau, gentil, mon loup. Mais c'est vrai que du coup, Catherine et Liliane...
Mais oui, ça nous a... Bien sûr. Ouais.
Et vous êtes en création, enfin, c'est-à-dire qu'on vous commande un programme, vous étiez déjà pote avant.
Oui, c'est quoi la genèse?
La genèse, à vrai dire, c'est que...
Tu racontes le début du machin, la balade.
La balade, on sait qu'on marchait dans Paris avec Alex, on adorait se promener dans Paris, et souvent se promener et être très contemplatif. Et on était rue Lafayette.
Au chômage.
Oui.
C'est ouais. Non, mais attends, non, mais en plus, c'était.
C'est joli.
On allait, je crois que c'était un samedi parce que on allait au point virgule doucement avec Ferdi en poussette.
Avec Ferdi, bon fils. Non,
et on était rue Lafayette et on avait déjà dû se raconter plein de trucs, donc on était dans un silence. Puis il y a deux femmes qui se sont interférées devant nous et qui ont commencé à discuter. Et sans se le dire, on les écoutait, tu vois. Et on se marrait, puis après on se faisait des regards.
Elles imitaient un peu, elles avaient ce rapport en tout cas.
Elles avaient le même rapport.
De bonnes femmes d'un certain âge qui marchaient, puis elles avaient objectivement ce rapport de un peu la dominante
et celle
qui est un peu en deçà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça, ça s'inverse tout le temps, en fait, ce phénomène. Et en fait, on n'avait que improvisé. On les imitait, mais on improvisait que sur oui. Ah bah non. Ah bah oui. Oui. Ah bah non. Ah bah oui. Ah bah tiens. Pendant des mètres et des mètres. Oui. Bah non. Oui. Mais si, bah non. Voilà.
Puis on l'a fait jusqu'à.
Ça
jusqu'à
nous a fait hurler derrière. Ça.
Ouais. Bah c'est hilarant, ceci dit.
Mais à la fin de la rue, on s'est dit, tiens, on tient un truc.
Mais on les a fait jusqu'à la rue de la Sainte-Croix. Hein.
Ça vous a fait toute la promenade.
Oui, non.
Mais quoi, et après,
après, on s'est dit, je me souviens qu'on avait trouvé ça chouette et fort et qu'on arrivait à les dégainer très facilement. Et après, on nous avait acheté un programme sur France 2 où on devait faire des petites pastilles d'humour dans une émission de Stéphane Bern.
À 15h30, on avait une liberté qui était assez géniale.
Ah oui.
Et on pouvait tout tester. Donc on a même fait un couple d'échangistes qui était vraiment extraordinaire.
15h30, mon Dieu.
Bon. Alex, il faisait ma femme. C'était vraiment... Enfin, tu vois, on a eu la possibilité. Mais on avait deux duos de persos qu'on remettait très souvent, qui étaient deux mecs dans des bureaux. Alors à l'époque, on disait, putain, vous avez tout copié à The Office et tout. On était, mais c'est quoi The Office? Non, mais c'est ça qui est ouf, c'est qu'on ne savait pas ce que c'est que The Office. Et on a maté The Office, on s'est dit, putain, c'est pas possible, les idées, elles sont dans l'air. Et sans le vouloir, c'était un peu deux mecs, un peu à The Office, tu vois. Et il y avait Catherine et Liliane.
Mm-hmm. En tout cas, l'embryon de Catherine et Liliane. On avait fait un sketch sur Ikea où elle essayait de commander une commande de Ikea au téléphone. Et c'était un sketch qui avait bien marché.
Une table gigogne.
Table gigogne. Et après, Canal Plus s'est intéressé à nous.
Parce qu'on a fait plein de pilotes chez Canal. Et des choses très marketées et tout, hyper bien foutues, mais qui n'étaient pas l'essence. Et c'est vrai que Laurent Bon part créer le petit journal et nous dit, écoutez, nous, on va créer un truc. Est-ce que ça vous dit de venir avec Catherine et Liliane?
Et d'abord, au départ, on était trois fois par semaine. Et bon, c'était compliqué. Il y avait eu tous ces pilotes, comme quoi il faut quand même toujours s'écouter sur un premier instinct artistique. Parce que nous, on les avait, en fait, fondamentalement. Moi, je voulais qu'elles aient des cheveux courts, qu'elles soient modernes, qu'elles aient un pied dans le 20e siècle, un pied dans le 21e, mais que, voilà, qu'elles soient écrasées de charge mentale et tout ça. Et puis, on commence à nous les travloter, à nous dire, ça serait quand même bien des cheveux longs.
Ouais, des super belles perruques et tout, mais qui fonctionnaient pas.
Elles sont à 5 ans de la pré-retraite. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, bon sang.
On les a vus dans la rue lors de notre promenade, je vous dis.
Et donc, on voulait des fois mettre des petites chartes graphiques. Après, il était question de les mettre peut-être en direct sur le plateau de Deniso. En fait, Canal voulait nous aider fondamentalement. C'était vraiment sympa, mais de chercher l'endroit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Ariel Saraco nous dit, mais chez Laurent Bon, il cherche quelque chose. Et vraiment, on lui doit, quoi. On était d'abord trois fois par semaine, et bon, c'était vraiment très étrange. Donc, ils nous ont... Et moi, j'aurais dit, écoutez, donnez-moi le vendredi, 2 minutes en fin de semaine. Donc, tu vois,
trop bien, une fois par semaine, c'est bien.
Oui, mais alors le challenge pour s'inscrire dans le temps, c'est...
Ah oui.
Mais en même temps, c'était super parce qu'à la fois discret et à la fois libre et à la fois, on a eu le temps de trouver l'axe.
Oui, mais c'est quand même marqué. Fou,
mais même l'axe du bureau, en fait, parce que quand on les a créés, on était dans un fond de bureau un peu perpendiculaire, du coup, à la rédac, vers rien. Et puis, ça ne fonctionnait pas. Et un jour, je ne sais pas si c'est Alex et Tom, je pense qu'ils ont eu... qui ont décidé d'ouvrir, de se mettre devant le bureau de Yann, d'avoir cette profondeur
de toute la rédaction.
Et du coup, là...
T'avais toute cette jeunesse derrière, qui était quand même en Stan Smith et en machin. Et nous, on était...
C'est vrai.
Et vu qu'on leur avait inventé toute une biographie, qu'elles avaient fait pigier, qu'elles venaient de France 3, qu'elles avaient été assistantes vétérinaires, etc. Bon, ben, c'est vrai que ce qui était drôle, c'était l'anachronisme. Oui. A priori, elles n'ont rien à foutre dans une chaîne branchée, dans une émission branchée. Elles y sont. Bon, il se trouve qu'elles y sont. Et puis voilà, c'est... Et je crois que ça a touché le cœur des gens quand même, parce que tout le temps, les gens nous disent, on les connaît. Et nous, c'était important que... Enfin, c'est marrant parce qu'on s'en souvient. Alors, c'est l'âge, hein, sans doute, ça aussi. On s'en souvient avec amusement, avec joie et avec beaucoup d'émotion.
Parce que c'est fini, là.
Elles nous ont émus quand même aussi. Ouais. Je crois qu'elles ont parfois ému les gens, j'espère.
Bien sûr.
Moi, je crois.
Non, elles existent. Bah, si, elles sont... Deux fois, on les ressort.
Elles existent, elles seront à jamais en nous. Et puis, c'est vrai que ça nous arrive quand on se voit
de les faire et tout.
Mais de toute façon, elles sont jamais très loin, tu vois.
Il y a un truc que je trouve fou, c'est qu'il y a vraiment des gens à qui j'ai appris que vous étiez Alex Lutz et Bruno Sanchez. Donc vous avez vraiment bien fait. C'est pas des hommes déguisés, on est loin de Samantha Oops. Là, vous, il y a un vrai truc, il y a des gens qui ne savaient pas.
Mais moi, je travaille avec des gens là, qui m'ont... Là, ça fait 4 textos que je reçois en me disant, putain, mais j'avais pas du tout capté que c'était toi. J'étais, bah ouais. Après, on n'est pas là non plus à le dire, eh ben oui, je suis Ilia. Mais c'est génial, en fait. Je dis, putain, mais c'est que c'est clown.
Bah oui, mais parce qu'en plus, jouer des femmes, c'est touchy. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre d'impro et à un moment, j'ai dit, en fait, vous arrêtez. Ouais. C'est bien simple, vous arrêtez, on arrête. Là. Les mecs, vous arrêtez de jouer des femmes parce que vous vous tenez les nichons et vous, et vous parlez comme ça. C'est pas possible, en fait. Et en vrai, un des exemples pour moi à donner, c'est comment vous, vous interprétez les femmes dans en jouant Catherine et Liliane. C'est pas du surjeu de ce que c'est peut-être qu'une femme. C'est assez naturel. Et
pourtant,
c'est
coloré à mort et ça n'empêche pas.
Parce que c'est des femmes qu'on
et ça reste parodique et tout, mais c'est, enfin, on y croit. Enfin, c'est des vraies meufs qui existent, quoi.
Ouais. Oui, oui, elles existent. Non, mais c'est vrai. On peut les croire un peu caricaturales et tout, mais mais tu les vois. Tu, moi, je les ai déjà croisées, quoi.
Oui, 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 totalement.
Et tu dis, tain, mais il y a rien qui est caricaturé, en fait.
C'est pour ça que ça a aussi bien marché. Ouais, hein, oui, les gens, ils étaient là, ah, c'est ma tante.
Et
ça,
puis c'est
ma mère,
surtout qu'on les fait, on les aime, quoi, tu vois.
Oui, grave.
On les aime, on les fait sincèrement.
On les aime, elles s'aiment.
On y croit, elles s'aiment.
Ouais. Puis c'est une relation particulière, on voulait pas en faire des... C'est pas vraiment des copines, c'est pas vraiment des amies, c'est pas vraiment des sœurs, c'est des collègues. Et c'est très touchant, une relation de collègues. C'est touchant, t'es embarqué, t'arrives avec ton cancer des ovaires à 9h20, et bon, ben, tu le veuilles ou non, tu le partages avec Martine de la Conta.
Toute la journée.
Et peut-être que Martine de la Conta, tu pouvais pas la blairer, mais à la machine à café, c'est dans son t-shirt que tu vas pleurer. Ben, ça raconte pas tout à fait la même chose. Vrai. Et ce serait vraiment là-dessus qu'on a construit ça. Je veux dire, l'autre est chaude comme une baraque à frites, mienne, elle est pas du tout bon machin. Bon, bah, elles apprennent l'une de l'autre aussi, elles s'apportent des
elles
trucs,
ont de l'admiration,
elles s'admirent, et c'est vrai qu'elles iraient au feu l'une pour l'autre. Donc ça, ça nous plaisait beaucoup. Et puis moi, j'étais très chiant sur des trucs de... Mais bon, je le loge dans des détails débiles, mais on pouvait être des oiseaux de paradis en termes de look, et en même temps, voilà, le cheveu court, la nuque dégagée, des choses, une forme de truc pratique, certains escarpins, pas d'autres.
Vous aviez vraiment la coupe coiffeuse des années 2000.
Oui, ça sent la hennette à plein nez, et en même temps, ça conduit sa petite micra très vite, et ça doit avoir un truc que ça doit avoir.
Très dangereusement, d'ailleurs.
Dangereusement un peu, et puis ça. Mais il y a quelque chose de nos mères aussi.
Ouais,
il y a ces femmes qui, moi, ma mère va pérorer à table et tout, et elle y croit vraiment. Elle s'est battue, 68, truc, on a brûlé nos soucis à gorge, qu'elle n'a pas brûlé du tout. Moi, je me fous de sa gueule en disant qu'elle a jeté une gomme en 68.
Et
finalement, fondamentalement, avec l'âge, et toute cette charge, toute cette... Parce que c'est une génération théorique avec ça. La nouvelle génération est bien plus intéressante parce qu'elle le met vraiment peut-être un peu solidement et fermement en pratique. Elles l'ont fait et d'ailleurs on peut leur dire merci. Et aussi, bizarrement, cet espace de travail était leur espace de liberté à Catherine et Liliane. Un vrai espace qui est le leur, en fait, qui est vraiment le leur. D'ailleurs, c'était assez souvent évoqué, le retour à la maison était plus ou moins heureux pour l'une ou pour l'autre.
Oui. On a l'impression que ce qui aussi peut-être vous rassemble encore aujourd'hui est juste, enfin, comment dire, vous représentez le fameux homme blanc d'autour de 50 ans, connu, qui a du pouvoir, mais vous n'êtes pas des gros connards, j'ai l'impression.
Bon, on sait rien.
Non, mais j'ai l'impression.
Bah, sinon, vous ne seriez pas là, déjà. Et non, mais c'est vrai, vous êtes des mecs blancs, hétéros, certainement, si je pense, qui prenez souvent la parole sur les réseaux sociaux pour parler de féminisme. On vous a vu faire plusieurs fois et on trouve ça super. Et en plus, vous êtes dans le milieu du cinéma et ce n'est pas un milieu forcément favorable au combat.
Oui, ça engagement. Peut faire peur. Ça peut
moi, je ne crois pas, en fait.
C'est ce qu'on voudrait entendre.
Moi, j'aime bien ce qui se passe. Je trouve que ce n'est pas confortable, mais c'est bien. Quand ce n'est pas
c'est
confortable,
important.
Souvent, enfin, c'est rare que ça devienne un drame absolu. Et puis, on voit quand il y a un truc un peu vertueux ou super vertueux qui est pas facile à traverser pour personne, je crois. Par rapport au cinéma, il se passe plein de choses. Des choses se disent, se révèlent, ce truc, mais... J'ai aussi un petit peu envie qu'on soit capable d'être collégialement un peu fier de ça, de se dire, nous, notre corps de métier, il s'engueule. La famille, elle s'engueule. Elle s'engueule, cette famille. Et puis, elle s'engueule en public. Et puis, il y a la vieille Martine qui n'est pas d'accord avec le vieux Bernard et la jeune Sophie qui dit, mais vous êtes tous des cons, machin, et qui quitte la table. Bon, nous, on le fait. Donc, je trouve que c'est pas si peu vertueux que ça. Et même sur ce qui s'est passé récemment, les trucs de la liste de la honte, etc. Bon, il y a un truc où je me dis, il y a le temps pour chacun de digérer quelque chose qui se passe. La génération d'avant qui est née avec plein de trucs compliqués, bon ben oui, ils vont mettre forcément 3 minutes de plus à piger des trucs où nous, on met parfois 3 ans ou 4 ans. Moi, ma pensée s'est encore modifiée au cours des 10 dernières années de tout un tas de choses, ben, mes parents encore plus ou des plus âgés encore plus, c'est normal. Mais je trouve que c'est au moins, je ne voudrais pas qu'on se dise c'est qu'un milieu pourri parce que, en revanche, je sais que la même chose se vit chez la petite vendeuse de Pinky à Bar-le-Duc et qu'elle, Tintin, pour en parler vraiment, il ne faudrait surtout pas croire que c'est propre à notre milieu. En revanche, notre milieu a des particularités parce qu'il a une verticalité dans les pouvoirs. Il y a des différentiels de sommes d'argent très importantes. Il y a des postes, c'est vraiment des postes verticaux pour le coup. Bon, voilà, et ce n'est pas que malsain, mais ça entraîne des choses qui peuvent l'être aussi, et bien sûr.
Et pourquoi il y a tant de freins alors ? Par exemple, c'est pour ça qu'on mentionne votre âge, c'est pas tellement pour... C'est parce qu'il y a un vrai frein de la part des d'hommes qui font partie un peu de vos générations, de votre format, si vous voyez ce que je veux dire, et qui freinent et qui veulent pas qu'on parle de ça. Enfin, qu'est-ce qui... Est-ce que... Parce que quoi, ça va freiner leur carrière ?
Ils ont beaucoup de mal à... C'est une époque où... Après, c'est encore une génération au-dessus de la nôtre, mais il y a aussi une autre génération. Il y a beaucoup de mecs qui ont beaucoup de mal à se remettre en question. Et puis, je pense aussi que c'est un système patriarcal qui est très favorable aux hommes et qui est dur à casser, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de remise en question, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aussi à une époque qui change et que c'est dur, surtout quand tu as commencé ce métier dès petit pour certains. Il y a beaucoup de grandes stars qui sont là depuis qu'ils ont 16 ans, 17 ans, qui ont appris le métier et qui étaient dans une espèce de tradition très mec. Et pour eux, ils ne le voient pas comme une espèce de mal, tu vois. Parce que moi, j'ai pu avoir des discussions avec des mecs et les mecs, il y a des mecs, très clairement, ils ne comprennent pas, ils ne le voient pas. Mmh. Et quand tu leur dis, ils sont là, ah ouais, mais non, mais attends, ça va. Attends, on ne peut plus rien dire, quoi. Attends, mais. Ouais, non, on peut plus rien dire, en fait. C'est ça, le
mais
problème.
Mais toi, si
mais
tu l'as compris, c'est même qu'est-ce qui a fait la différence
mais
que toi, t'as écouté
je
des
sais
gens.
Pas, je sais pas.
Est-ce que c'est quand même un manque de bonne volonté
de
leur part ou
de aussi, ou
de
pas peur. C'est une histoire d'éducation, de pas d'éducation.
D'entourage.
Je crois que c'est vraiment lié aussi à des modèles féminins. Bruno et moi, on a eu des modèles féminins...
Forts.
Hyper forts. Enfin, hyper... En tout cas, oui, c'est vrai. On a eu des modèles féminins assez...
plutôt féministe.
Et puis on
oui,
est avec
ou en tout
des
cas
femmes...
qui nous ont touchés, ou j'en sais rien. Ouais. On a l'histoire de nos femmes qui sont... où on est dans des histoires de couple qui sont des histoires qui ont parlé, qui ont
de communication,
discuté, de communication, peut-être, j'en sais rien. Et puis après, bah, pour les autres, c'est toujours pareil. C'est l'enragement militant, il repose surtout sur une... Bah, sur une impatience légitime, mais en même temps, bah ouais, ça demande de la patience. Et moi, j'ai vu des gens parfois hyper éveillés, finalement stagnés, et des gens qui ont mis 10 ans à s'ouvrir et qui sont des gens merveilleux d'ouverture, de compréhension, qui sont capables de dire pardon tardivement, j'en sais rien.
Donc toi, tu t'impatientes pas.
Ça, mais je me dis juste, tout ça est super, très bien, traçons. Et laissons la porte du train ouverte et prenez-le, tout va bien, ça va aller. Mais sur la génération précédente, en revanche de la mienne, je peux être choqué, je peux être énervé. Le seul endroit, parce que je l'ai vu, petit, parce que j'ai 46 ans et que voilà, pour le coup, je parlais d'avoir un pied dans le 20e et dans le 21e siècle. Il ne faut pas oublier que leurs mères se sont mariées à 15, 16, 17 ans, que leur père avait été moi j'ai encore connu des potes ou des gens de ma famille, la grand-mère de ma femme mangeait dans la cuisine.
On a
2 minutes dans l'histoire.
Et
la génération des boomers qui croient avoir tout fait voler en éclats au nom d'une certaine liberté, ont cru corps et âme au bien fondé de ce qu'ils ont, et sans se rendre compte, voilà, là, ils ont des factures importantes de choses qui pouvaient être considérées comme « oh, c'est rigolo », et bon, bah, t'en as plein qui finalement disent « anyway, c'était pas si rigolo
oui. ».
mais ils ont grandi avec ça. Et les boomers d'aujourd'hui ont grandi avec des littératures comme Lolita, ont tous fantasmé Brigitte Bardot qui avait 13, 14, 15 ans sur ses premières photos de ballerines.
On écoutait Madsnef à la télé.
On écoutait machin. Il y a des contes texte qui font que il s'agit pas juste de dire hey bonhomme t'avais pas remarqué que c'est quand même plus complexe que ça, et d'ailleurs certains font ce travail Moi, je connais des gens qui se disent ouais, c'est purée, c'est fou. En fait, on était au barbecue, ouais, machin, on se disait des trucs, mais c'est fou. Comment c'était possible? Voilà.
Mais je pense qu'il faut aussi que l'éducation nationale, elle s'y mette en fait aussi. Oui, tu vois, faut que ça soit dans les écoles, oui, mais dans les écoles partout, dans toutes les écoles en fait. Parce que on voit encore de la jeune génération aujourd'hui, et Justine, tu les mets en lumière, ces mecs. Cette masculinité très, très nocive, en fait, qui existe toujours, tu vois. Et tu dis, ah ouais, donc...
Ah oui, les coachs en séduction, tu
vois. Ouais, les coachs en séduction, mais plein d'autres comme... Entre autres. Entre autres, et beaucoup d'autres mecs qui sont pas coachs, mais qui sont influenceurs et qui racontent de la merde, en fait, tu vois.
De la merde misogyne.
Ouais, de la vraie merde misogyne. Et tu dis, bah ouais, les mecs, ils sont 20 piges, et en fait, c'est toujours là, et c'est imprégné en eux, parce que très certainement, ils ont une éducation... j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute, si, c'est de leur faute, parce qu'ils sont assez grands maintenant pour se remettre en question. Oui. Et je trouve qu'il y a assez, d'outils aujourd'hui pour s'intéresser à ça et se dire, ah ouais, à quel moment ma masculinité, elle est un peu anormale, en fait, tu vois.
Et donc vous vous sentez pas menacé par l'arrivée de toutes ces femmes et toutes ces personnes issues de la diversité qui viennent prendre des rôles, des trucs, des machins, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi ça, quoi. Moi, j'ai fait un plateau, je me souviens, d'humour il y a pas longtemps, où le thème, c'était devant des associations qui traitent des violences sexistes et des discriminations, et on était 4 humoristes sur le plateau, et la personne qui a prévu ça a dit, faut quand même bien qu'on mette un homme blanc hétéro, c'est important, tu vois, dans la... Et je me suis dit, putain, c'est quand même fou, parce que on sent que ça a quand même des freins. On était, et du coup, résultat des courses, il avait rien à faire là, c'était très maladroit, son sketch était très maladroit.
Oui, c'était pas le thème, quoi.
Ça ne fonctionnait pas, le public n'a pas adhéré, parce que c'était un peu hors truc. Mais je me dis, lui, typiquement, il est un peu en mode encore heureux qu'on m'ait appelé, parce que sinon c'est toujours maintenant je suis le dernier à passer, tu vois. T'as envie de dire, je suis pas sûr.
Moi, ce qui m'embête plus, c'est la rapidité à parler des choses. Là, c'est assez agréable, on en parle pendant un bon moment ensemble et tout. Je me souviens, moi, par exemple, de la réaction que j'ai pu avoir 5 minutes sur Alice Coffin, sans avoir lu le bouquin.
En gros, on t'oblige à avoir un avis rapide sur un sujet que tu maîtrises pas.
En fait, on a un truc qui advient, et puis après, ça se digère, c'est commenté, puis en fait, tu réagis sur le commentaire du commentaire du commentaire, sur l'avis de l'avis de l'avis, et puis en fait, machin. Si tu regardes le truc, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut... trouver que c'est intéressant ou pas intéressant. Elle parlait notamment là-dedans.
De dire, pour l'instant, je ne lis plus d'hommes.
Ah oui, parce qu'on l'a assez fait.
Ce qui était intéressant dans le bouquin, c'est qu'elle propose c'est comme une forme d'expérience, et encore, c'est une écriture où elle dit, tiens, c'est comme si elle disait, tiens, quel type de femme je suis si tout d'un coup, je m'amuse à annuler tout ce qui serait de l'influence masculine, je veux juste voir ce qui reste. C'est plutôt ça que ça dit.
Je suis d'accord.
Ça dit pas,
les
au fait, plus jamais je lirai Camus.
Oui, voilà.
Et du coup, vu qu'on lui sert ça de plateau en plateau, coup, elle est méga réactive que là-dessus. Mmh. Elle peut pas développer ce qui précède ce passage dans le bouquin, ce qui suit ce passage dans le bouquin. Du coup, ça nous paraît caricatural parce que tu te dis, d'accord, alors si on peut plus lire Stendhal, alors que c'est pas ce qu'elle dit. Et tout d'un coup, elle se rend compte d'une culture qui a essentiellement été proposée par... de la culture masculine en écriture, formidable et géniale, de la lecture, de la culture picturale, et que tout ça, c'est bon, elle l'a pigé, elle l'a découvert. Maintenant, c'est pas autre chose finalement ce qu'elle dit. Et quand tu regardes ça comme ça, ça devient plus dangereux, ça devient une expérience théorique, et elle n'est pas en train de dire qu'elle va faire un auto-da-fé.
Oui. Il y en a qui ont la flemme de comprendre ça et qui n'entendent effectivement... Moi, je l'ai même pas lu son
mais
livre.
Je dis pas
et
que je le partage forcément. Oui, je dis juste que sur le truc, je me dis, d'accord, c'est ok, c'est de ça dont il s'agit.
Effectivement, cette phrase sortie de son contexte, tu te dis, mais oui, il faut creuser un peu. Mais il y a vraiment des gens qui sont très, très flemmards de ça, quoi. Et même en ayant la théorie, je pense qu'il y a vraiment des gens... des hommes surtout qui sont pas d'accord avec sa théorie.
Mais
de,
en vrai,
de lire
aussi,
que des femmes, quoi.
Tout simplement parce qu'à la télé, ça fait beaucoup plus vendre... l'émission, d'avoir quelqu'un qui réagit à « qu'est-ce que vous dites à une femme qui dit qu'elle veut plus jamais lire un livre d'homme ?» C'est beaucoup plus
catchy,
vendeur, malheureusement, je le déplore totalement, que là, ce que tu viens de nous expliquer pendant 5 minutes, je comprends son raisonnement. Ça, malheureusement, à la télé aujourd'hui, personne ne veut le voir. Je suis pas sûre que personne ne veut le voir.
Si, je pense que c'est une histoire de temps, en fait. Je trouve que l'époque demande du temps.
De temps et de plateau. Enfin, on
de
est
plateau.
Au...
Nous, on l'a vu, même sur notre âge, la réduction des formes, enfin les formats, c'est vachement intéressant.
On n'a plus, plus le temps d'avoir des vrais débats.
Les formats se découpent de plus en plus petits, même sur les réseaux sociaux que vous maîtrisez super bien.
Ah bah nous, bah, c'est 1 minute 30, hein, top
ça
chrono.
Ça passe de 1 minute 30, maintenant il y a des formats microscopiques. Bon, c'est super, tant mieux, mais ça a des revers aussi.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, quand on parlait de factures de la génération précédente, je peux vous dire
ça
que
fait partie de la
celle-là
facture,
aura une facture, et c'est bien normal qu'il y ait des factures, voilà. Et ben, le temps surdécoupé pour tout digérer, tout piger en deux secondes, avoir un avis, le bon, en deux secondes, c'est pas... Bon, ben ça, voilà, ça prend du temps. Mais quand tu t'y intéresses, non, ça fait pas peur. Je crois pas que ça fasse peur. Enfin, il faut pas que ça fasse peur.
Je trouve quand même qu'on manque d'un truc que peu de monde s'autorise à faire, c'est j'en sais rien. C'est de répondre, même à la télé, même quand... De répondre,
d'être
pour
honnête,
l'instant, je ne sais pas. Parce que, en fait, ce que vous me dites, je me paraît un peu peut-être sorti.
Je vais creuser, je vais voir.
Je trouve que ça demande un peu de réflexion et qu'on a cette volonté, mais due aux éditorialistes extrêmes droite des plateaux, notamment, qui se disent que le but, c'est de dire une phrase, peu importe si elle est vraie, peu importe si elle sera, tu vois. Il y a vraiment cette volonté-là et on perd un peu... Oui, la longueur du débat, bien évidemment, et, ou de la discussion d'ailleurs, sans forcément dire
c'est
un débat.
C'est aussi mais comment on consomme les informations. On les consomme, comme tu dis, très rapidement. Oui. On va entendre que cette phrase, tu vois. Les gens, ils n'ont plus envie de... Ils vont prendre ce qu'ils ont envie de prendre et ça leur va très bien, en fait.
Mais je ne sais pas si c'est les gens qui veulent ça ou si c'est ce qu'on leur offre.
Non,
je crois que les gens s'adaptent.
Je pense que c'est un mélange des deux, en fait.
Je crois que c'est un mélange.
Je pense qu'on ne lit plus assez, en vrai, tu vois.
Je pense poser qu'on est un peu son téléphone. Responsables de... de la forme que prend le monde et bon ben ma foi la personne qui doit écrire le chapeau qui apparaît sur notre portable avec marqué Judith Godrèche, la guerre en Ukraine, les tupperwares, nouvelle génération en une seule phrase avec une photo d'une bombe et d'une tour
d'une boîte.
Voilà, et d'une boîte. Bon ben elle est prise dans son truc, dans son travail et en le faisant tu pourrais évidemment dire là, moi, je viens de monter un spectacle sur le Veldiv, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une machine étatique qui s'est mise en place pour rendre possible cette tragédie et que chaque personne, chaque individu est responsable d'une chose en sachant ce qu'il peut savoir, en ayant accepté de savoir ce qu'il veut ou pas savoir. Enfin, c'est
une responsabilité collective.
Ouais, collective et individuelle, et c'est très compliqué, en fait. Moi j'ai bien du mal à juger lapidairement les choses. Je me dis, voilà, après, il y a des choses qui me font chier ou qui me font pas chier, que je comprends, que je comprends pas, et qui me révoltent et qui me révoltent pas. Moi, je sais pas si ça...
Je sais pas, Alex. Et tout de suite, un morceau...
Eh ben, tu crois pas si bien dire. Puisque t'as envie de faire un petit jingle, on va passer au bol à questions.
Au bol à questions.
Bruno, si tu veux introduire...
Bol à questions. Bol à questions.
Ici, il y a des questions deep, ici, il y a des questions chill. Ça veut dire des questions plus profondes,
ouais,
qui demandent
comme ça,
profondes, plus, voilà, et celles-ci plus légères, qui sont pas, voilà, qui sont sur tout et n'importe quoi. On verra. Qui veut commencer à piocher un petit truc. Ah, ça va dans le deep.
Hé, hey, qu'est-ce que c'est ce
Bruno
petit courageux, là.
Attends, c'est qui, c'est
moi, je vais dans la chouquette.
Est-il juste de défendre une cause qui n'est pas sienne?
Oh là, putain.
Waouh.
Bah, finalement, un peu... Comme, est-ce que vous, ce serait juste de défendre le féminisme? Est-ce que nous, on peut porter l'antiracisme? Est-ce que...
J'ai envie de te dire que oui, quand même. Oui, oui, c'est juste. Après, tu vois...
En fait, ça dépend comment tu le fais. Enfin, ça dépend ce que tu entends par défendre, quoi. Enfin, c'est pas se mettre à la place non plus de l'autre et se mettre devant. Quoi.
Non, c'est pas... Oui, c'est pas prendre à soi ce qui n'est pas à soi. C'est
oui,
pas la même
c'est
chose.
Ça. Oui,
mais
ça.
Là, moi, j'ai fait... Tu vois, j'ai fait un post avec l'histoire de l'avortement, là. L'Archer avec son catalogue des droits sociaux.
Qui était super d'ailleurs.
Et donc j'ai écrit un truc
Gérard
un soir.
Gérard Larcher, président du Sénat, c'est ça,
ouais,
c'est
directeur ça. De... Qui a dit que c'était pas urgent en gros.
Oui, c'est ça.
Alors il a dit la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Ce que, encore une fois, au regard de ce qu'est la Constitution, au regard de ce sur quoi il surfe par rapport à la notion de droit social et sociétal, effectivement. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai écrit un post qui m'a. Un texte que j'ai eu besoin d'écrire parce que je savais que cette brave Simone Veil n'avait pas eu le choix finalement que d'aborder pour obtenir la loi la question du sociétal, c'est-à-dire de la pauvre, en gros je schématise, mais de la pauvre femme avortée pour X raisons terribles que la société tout entière ne pouvait pas, être insensible à ça. Et que, évidemment, elle était bien obligée de mettre sous silence le choix individuel de se dire, tiens, bon, en fait, je n'ai pas envie, je n'argumente pas et j'avorte. Bon, évidemment, facture, ça devient un droit social et sociétal, et ce n'est pas tout à fait pareil. Et du coup, tu peux surfer là-dessus, mais ça fait que tout d'un coup, j'ai écrit un post sur la bonne avortée, la mauvaise avortée, en gros. Bon. Ouais. Parce que c'est un sujet qui me touche, parce que c'est de près, bref. Et j'ai été contacté récemment par une femme qui a un festival autour du féminisme pour venir parler à une table ronde. Et tout d'un coup, j'ai dit, écoutez,
de ce sujet-là,
de tout un tas de trucs, mais enfin à partir de mon poste.
Okay.
Et tout d'un coup, j'ai dit, je crois qu'à un moment donné, j'ai pas envie d'y être parce que sur le confort et l'inconfort dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui nous coûte aussi, c'est de la boucler. En fait,
oui, de laisser la place.
Boucler.
C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre, une femme.
Donc par rapport
femme,
à ça, ce qui me frappe toujours, combat, par exemple, on parlait de Coffin, mais finalement toutes les paroles féminines actuellement, est-ce que c'est à moi de les commenter? J'en sais rien. À un moment donné, j'ai pas. En tout cas,
on les soutient, oui.
Je peux soutenir du chagrin, je peux soutenir tout ça, mais
être en empathie totale.
Mais très vite. Ma masculinité peut très vite m'entraîner à dire, alors écoutez, moi je pense plus sérieusement. Il faut quand même être vigilant à ça. Alors, c'est aussi ça qui nous coûte.
L'angle que je trouve intéressant dans ces cas-là, moi je le vois souvent quand je porte, en tout cas, la lutte antiraciste, par exemple, me touche beaucoup, alors que je suis une femme blanche, vraiment blanche.
Ouais, mais...
Et en fait, j'ai trouvé, alors je le fais peut-être pas forcément toujours très adroitement, mais je suis à l'écoute des retours, mais ma façon de m'approprier, on va dire, ce combat, c'est de m'adresser aux autres blancs. C'est-à-dire que j'essaie pas d'expliquer ce que c'est que de subir des discriminations en tant que personne racisée, ce n'est pas moi, mais de me dire les blancs probablement
on n'écoute peut-être
plus les blancs, c'est un peu terrible. Mais...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je sais que les hommes écoutent plus les hommes. Par exemple, si moi, en tant que féministe, j'essaye de m'acharner, à convaincre un homme, et probablement que Alex, moi, je te dis un truc. Alors, peut-être pas toi, Bruno, là, comme ça, mais si je t'explique, et 2 secondes après, Alex va t'expliquer.
Mettons, imagine,
chose.
C'est Pascal Praud, et voilà, tu donnes ton nom au pif.
Mais imagine, par exemple, Pascal Praud, vraiment par hasard, quoi. Ouais. Et il va être moins à même à m'écouter qu'un homme qui lui expliquerait la même chose. Je le sais, je l'ai vécu, c'est vraiment empirique comme façon de raisonner. Et je me dis, ça doit être un peu pareil. Il y a probablement que les blancs vont plus m'écouter, moi, sur. Des questionnements comme ça, qu'ils vont écouter des personnes racisées parler de leur discrimination. Donc je trouve que j'ai un angle, ce qui me fait dire que je pense que notamment dans le féminisme, bien sûr que les hommes doivent s'emparer aussi de ça, parce que sinon on n'avance pas, puisqu'en fait, le patriarcat, c'est quand même le problème d'une domination masculine sur les femmes. Donc du coup, forcément, il faut que les hommes s'en mêlent. Mais je crois que les hommes doivent beaucoup parler aux hommes, en fait. Et de qu'est-ce que ça leur fait à eux, de leur ressenti, chose qu'on a du mal à faire, aujourd'hui encore.
Chacun son taf dans cette histoire.
Moi, je le fais avec mon fils de 6 ans.
Par exemple, tu vois.
Non, mais tu vois, parce que c'est l'avenir, en fait. Je le fais avec ma fille. J'apprends beaucoup de choses, d'ailleurs, avec ma fille. Et je pense que ça doit être, tu vois, ça doit être ça aussi, en fait, surtout. Je pense qu'il faut former...
Éduquer les prochains,
ouais.
Bon. À quel âge ta fille?
Elle en a 10. Elle en a 10. Mais tu vois, c'est dingue, hein, parce que c'est encore aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, il y a un an et quelques, on a des amis qui avaient leurs enfants dans la même école que ma fille. Et c'est des amis qui ont 2 fils. Le plus jeune, il a 6 ans à ce moment-là, ou 7 ans. Et ils regardaient sous la jupe de ma fille, tu vois, une première fois. Première fois, c'est marrant. Je trouve pas ça marrant. On devrait se dire tout de suite. On fait OK. Une deuxième fois. Et là, ma fille, ça commence à la saouler, tu vois. Et moi, ça commence à me saouler aussi. Mais la mère, elle dit rien. Et une troisième fois. Et la troisième fois, c'est moi qui ai pris le truc, tu vois. Et la mère, elle a un peu ri en disant, vas-y, viens, arrête. Et t'en disais, bah, en fait, non.
Ouais, ça
ne pourra jamais changer,
moments,
en fait.
Ouais.
Parce que si tu ne dis pas à ton fils d'arrêter de regarder sous la joupe de ma fille...
Comment il sait à quel âge il ne doit plus le faire?
Bah ouais, mais c'est surtout qu'il ne faut pas qu'il le fasse,
oui,
en fait.
Évidemment.
C'est à partir de là que ça commence, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est surtout l'éducation...
Ouais, dès le début. Quoi.
Dès le début, ouais. Mais même pour que ce soit pour le racisme, pour tout, en fait.
Oui, oui.
D'avoir un truc...
Des bases, genre. C'est
des
ça,
bases humanistes,
c'est
je sais pas.
Tolérable, ouais.
Ouais, ouais.
Non, mais
ouais.
Surtout, en plus, je pense qu'en vrai, cette question, est-ce qu'il y a juste de défendre une cause qui est pas sienne? Bah, si on répond fort non, ça sous-entendrait que nous, on doit se préoccuper que du féminisme, par exemple. Que ça, parce qu'on subit pas d'autres discriminations.
Non,
on
mais...
est valide, on est
donc,
blanche.
Le reste, on s'en fout. Bah,
voilà. Bah oui. Du coup, sauf que non, parce que sinon, on n'avance pas. Parce qu'en plus, on est... les dominants de quelqu'un d'autre aussi. Nous on est l'oppresseur, même si c'est pas moi qui oppresse directement les personnes handicapées. Néanmoins, si j'y fais pas gaffe, je peux très vite accepter quelque chose qui est pas acceptable peut-être pour ces personnes-là. Bon.
Ouais.
Donc on mais bon, et pas faire à la place.
Mais c'est un vrai sujet de philo, attention.
Allez, une autre question peut-être, Alex. Tu veux piocher?
Oh là, je vais faire la dipos, moi.
Là, ils sont très deep, bah, de là. Dis donc.
Ils ont assez rigolé dans leur vie.
Ouais, vraiment, ils ont peur, mais de rien.
Alors,
tu fais quoi comme activité dans les transports?
C'est pas très deep, hein, finalement.
C'est pas du tout si.
Elle s'est trompée de bol. C'est pas grave.
Je regarde mon portable comme un imbécile pendant des heures et je me sens mal, donc je regarde la route. Et après, et j'écoute la musique.
Ah, toi aussi, t'as le mal des transports?
Ouais.
C'est chiant, hein.
Bah oui.
Et dans le train, vous pouvez pas lire? Tu vas en tourner en train, par exemple.
Dans le train, ça va. Voiture compliquée.
Ouais.
Et sinon, j'adore conduire. Alors, je mets de la musique fort et je chante des imbécilités. Ou je me fais émouvoir moi-même des chansons que je prévois. Ouais,
j'adore.
Je vais faire un petit Reggiani bien triste. Et je vais faire un peu. Oh, tiens, pourquoi je me ferais pas quand même hein, Gloria. Et donc
j'adore
voilà.
Chanter en voiture.
Et je chante à.
La tutelle.
Tête. Ah ouais.
À gorge déployée, même peut-être.
Ouais.
Peut-être
dans du vieil anglais pas bien, en franglais très fort. J'adore ça. Sinon, je regarde mon téléphone. Elle n'était pas deep, cette question.
Non,
minute,
non, elle était bénévole. Elle était très chill. T'es déçu.
Elle était méga chill, même.
Allez, reprends une autre deep, tu peux aller dans le deep.
Ah, celle à carreaux, elles ont l'air vraiment mieux.
Mais celle à carreaux, c'est probablement écrit à la main.
Alors, c'est quoi ton rapport à la solitude?
Oh,
tu joues du piano?
je cherche mon petit violon.
Tu viens de faire une petite ambiance, un petit fond musical.
C'est quoi mon rapport à la solitude? Ben, je la déteste pas. Non, je la déteste pas, mais je l'aime pas non plus. Non, j'aime bien les gens, moi. J'aime bien les humains, moi, quand même. Les humains et les humaines. J'aime bien notre espèce. Je ne suis pas un énervé du bounty avec notre espèce.
Et toi, Bruno?
Ah, et toi, Bruno?
J'aime beaucoup la solitude. Alors que j'étais quelqu'un... Moi, je viens d'une famille assez nombreuse et tout. On a toujours été très nombreux.
T'as combien de frères et sœurs?
Alors, j'ai un grand frère, mais ma mère, elle avait 13 frères et sœurs, mon père 9.
Ah, t'as plein de tantes et tontons.
Ouais. Portugais.
Alors, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais tu vois, j'ai grandi vraiment beaucoup avec énormément de monde et le week-end et tout. Mais plus ça va et plus j'apprends à être seul. Et pour le coup, la misanthropie me fait pas trop peur. C'est très étrange. Et,
t'aimes un peu moins les humains, peut-être? Que Alex, t'as moins confiance.
Ouais, ces derniers temps, je suis un peu fatigué des humains. Ouais.
Et en même temps, tu peux pas dire ça quand t'as des enfants. Un peu.
Non, bien sûr.
Il faut que tu gardes
pêche. Mais parce qu'ils me donnent l'espoir que ça ira très bien, parce qu'ils sont. Ils sont super. Ouais, bien sûr.
C'est pas les mêmes les deux.
si, mais c'est vrai que ces derniers temps, t'essayes d'être un peu en dehors de tout ça en disant je suis quand même un homme blanc. C'est ce que nous dit souvent Tom Dingler, qui dit t'es un mec, t'es blanc, tu vis en France, tout va bien quoi. Et il fait ouais, c'est vrai, mais
on a quand même le droit d'aller mal aussi.
Mais tu te dis putain, c'est tu regardes, sûr, tu regardes un peu, tu fais
c'est dur,
c'est fatigant quoi.
Ouais.
Après au 15e siècle, moi je signe pas, hein,
non d'accord, mais j'ai pas l'impression, enfin il y a des choses qui ont changé, mais fondamentalement dans le fonctionnement des êtres humains, tu te dis ça sera toujours comme ça. Oui. En fait.
Mais c'est ça qui me touche, moi, un peu, finalement. C'est peut-être un déni. Ils sont assez touchants, ces schémas. Quand on regarde dans un livre d'histoire, il y a eu la guerre, ils ne se sont pas blairés. Oh, la farandole.
Non, mais je pense
vengeance. Farandole de les années, ça va mieux. Bon,
ça repart.
Après, je suis peut-être... Oui. C'est un peu une utopie, mais je me dis que... Et ça peut être très naïf, mais ce serait bien quand même que... qu'à un moment donné, on s'arrête un peu,
ouais, on
analyse un peu,
ouais.
Un peu tout ce qu'on a fait, d'arrêter de reproduire ce robot, quoi. Et c'est-à-dire, viens, on trouve une solution. Mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours le pouvoir. Et il y a plein de mots, mais ça, c'est génial, parce qu'on n'en parle pas aussi.
Mais on sera les ringards de ça, je crois. C'est bien qu'il
y a énormément de mômes qui ne veulent pas aussi ça. Et
Je crois. Et
je pense que le monde, il va scinder un peu, tu vois, en deux. Mais même dans les médias, tu vois des gens comme Camille Etienne ou Hugo Clément et tout. Tu dis, il y a une génération là de journalistes
qui a pas envie de faire la même chose, quoi.
Ouais. En tout cas, qui a envie de réinterroger tout ça.
Moi, c'est ça. Pour moi, l'important, c'est qu'on n'ait pas envie d'abandonner. Et du coup, des fois, moi, je me dis, c'est trop. Là, je suis dans cette période.
Mais moi, je suis dans cette période, de fatigue un peu.
Mais en fait, ce que je me dis, c'est peut-être que j'ai mis assez de pierres.
Il faut toujours cette période
pour donner un relais et dire, là, moi, je suis fatiguée. Si ça vous a inspiré, si
exactement,
ce que j'ai fait jusque-là ou d'autres gens, ça vous inspire,
genre, tu vas
un peu le relais.
Mais non, mais c'est surtout.
J'ai pas dit plus jamais, mais
c'est surtout que.
Tu sais, genre, on a un relais, quoi.
C'est surtout que je suis d'une nature plutôt optimiste. Et là, je me retrouve à avoir des espèces de pensées de me dire. Attends, mec. Ouais, mais je crois que c'est une fatigue un peu.
Oui,
mais c'est une fatigue
c'est
de. Une fatigue de surinformation. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui m'informe. Et je sais qu'il y a quelques années, et heureusement qu'il était là, quand je venais d'avoir ma fille, tu vois, quand tu deviens parent, il y a un truc où tout te fait peur parce que tu te dis. Il ne faut surtout pas qu'on l'enlève et je veux qu'elle puisse... Et je veux la protéger à tout prix. Donc, moi, les infos, comme en plus, on était au petit journal. Il y avait des infos en permanence. Moi, j'étais sûr qu'il allait y avoir une troisième guerre mondiale.
Toutes les deux secondes.
Toutes les deux secondes, que c'était la fin du monde.
Toutes les deux secondes.
Moi, je suis comme ça, parfois.
Elle était aux portes de Paris toutes les deux secondes. Les chars. Tout le temps.
C'est pour ça que même, tu vois, d'Insta et tout, j'ai envie de me couper.
Mais moi, ça m'a intéressé ce que je ressens avec Insta, puisque donc, en vieux schnock, tout d'un coup, t'adores et donc t'y vas trop.
Oui, bien sûr.
Et j'ai analysé tous les sentiments que j'avais, même par rapport à des trucs militants, etc. Je me suis dit, mais pourquoi je sors de ces consultations-là, de ce temps de consultation si le plexus écrasé, malheureux, en deçà, en dessous,
découragé,
pas à la hauteur, un peu nul, un peu plouc, un peu pas le bon militant ringue. Comme il faudrait.
C'est pas beaucoup de bons sentiments.
Un peu machin, un peu bienveillant, un chien qui fait un je sais pas quoi.
Ouais.
Résilient mais pas. Dégoûté en me disant ils ont mis en scène leur truc. Bon, tous ces trucs qui sont quand même convoqués en 4 secondes, c'est-à-dire qu'en une heure de temps, et d'ailleurs c'est fait comme ça, c'est fait comme une machine à soupe, donc c'est fait.
Des hauts et des bas, beaucoup trop bas.
Tu convoques 6000 sentiments que normalement tu devrais avoir une journée pour l'avoir, c'est-à-dire la journée où tu dis tiens, je suis un peu en forme aujourd'hui. Bah là, en une heure de consultation de ces trucs-là, ça déjà, c'est quand même une super clé. Et quand je parlais des jeunes, je sais qu'il y en a plein qui sont assez conscients quand même, parce qu'on n'arrête pas de dire ils sont tout le temps collés sur ces trucs-là, mais c'est plutôt les plus anciens qui sont collés sur ces trucs-là. Et eux, parfois, ils l'abandonnent et tout. Moi, je vois mon fils. Il est sur ces trucs-là beaucoup, c'est sa télévision à lui, c'est sa madame est servie à lui,
c'est un rapport différent.
Ça se dose mieux et tout ça. Mais c'est sûr que ça crée un truc que, oui, voilà, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a le catastrophisme. Ça, je trouve que tout sujet est une catastrophe, alors qu'on parlait du féminisme. Ça peut être enthousiasmant aussi. Moi, j'aimerais qu'on me vende le truc que waouh, ça sera chouette, c'est chouette.
Oui. Mais je pense qu'en plus,
ça me fait chier.
Je pense qu'il y aura des trucs chouettes.
Et d'ailleurs, ce que ça fait des gens comme Camille Etienne ou Salomé Sacquier, c'est de dire, par exemple, sur l'écologie, c'est pas forcément le penser qu'en catastrophe, parce que le fait est qu'elle arrive, la catastrophe, mais de dire. Il y a aussi plein de choses qu'on peut faire.
Après, c'est une forme de militantisme. Il y en a qui arrivent à être très enjoués. Oui. Nous, par exemple, c'est pas notre dada, mais encore, on fait passer par l'humour pour qu'il y ait un truc un peu genre, c'est du fun. C'est horrible, mais c'est fun.
Et vous avez choisi l'humour. Pourquoi? Vous le savez?
Parce qu'on est
marrant.
Faire passer. Alors déjà, parce qu'on est
hilarant. Parce que vous êtes vraiment hilarant.
De base, ça nous paraissait le modèle un peu évident à aborder. Et puis, on s'est aussi rendu compte, évidemment, malgré nous, un peu que les messages. Les plus durs passaient toujours mieux avec de l'humour.
Particulièrement sur du format court.
Oui,
sur 1 minute 30, nous, quand on aborde une violence sexuelle ou un grand concept de féminisme, t'as pas le temps en 1 minute 30. Par contre, si tu l'abordes par un prisme d'humour, d'ironie, les gens, ils se font leur chemin.
Bien sûr.
Quand on dit « Ah bah super, bravo Yann Moix pour ce que t'as dit », c'est bon, les gens, ils ont compris qu'en fait, il a dit de la merde et ils font leur chemin.
Il n'est pas ressorti un truc, là?
Faut que j'ai pris Yann Moix au pire, parce que je pensais que je prenais pas trop de risques.
Non, parce que tout à l'heure, j'ai vu Tristan Lopin qui publiait un truc, et je me suis dit « Qu'est-ce qu'il a encore raconté, celui-là ?»
Il a dit qu'aujourd'hui, on pouvait plus parler de Depardieu comme un acteur. Enfin, il déplore que maintenant, il faut dire violeur, qu'on ne peut plus dire tel auteur, mais il faut dire que c'est un agresseur, tel, comme si on n'avait plus le droit. Enfin, il a dit, on ne peut plus rien dire.
Tu vois, ça, c'est des mecs, j'ai l'impression que ça, il changera. Tu ne pourras jamais le faire changer, ce mec-là.
Bah, surtout que lui, je pense qu'il avait l'occasion là, de dire, mince, je suis désolé de l'avoir filmé en Corée en train de dire des énormités sur des enfants de 14 ans.
De 10 ans.
De 10 ans, ouais, pardon.
Il ne peut pas parce que maintenant, c'est son personnage. C'est comme ça. S'il veut exister.
Carrément, il est obligé même de continuer dans
BD, c'est pareil. Pour moi, ces gens-là, maintenant, s'ils veulent exister publiquement, même Zemmour, je veux dire, il va pas revenir en disant ah, peut-être j'ai déconné.
Ça
mais
serait génial, n'empêche.
Moi, j'adore. Qui chope le train. Qui chope le train d'Alex en cours de route.
Et je suis d'accord.
Et qui disent finalement pour qu'il écoute trompé de gare.
Il écoute Alex et il dit je peux monter à la gare d'après.
Vraiment, je suis à la gare de l'Est alors que pas du tout.
Faudra beaucoup bosser quand même. Mais on peut envisager. Moi, avec BD, je peux envisager. Ouais. Bon, bref, on va dire que oui.
Mais non, mais tu vois, exemple, pas aussi vénère que ça, mais donc Jacques Weber qui avait signé La Tribune, c'est ça ?
J'avais trouvé ça bien qu'il revienne sur son truc.
C'est ça.
Quoi.
Oui. Il a fait un vrai chemin.
Il a fait un chemin.
Il a dit qu'il s'est engueulé à droite à gauche et qu'on l'a secoué, les puces. Moi, j'ai trouvé ça très mignon.
Je l'ai pas entendu, moi, je l'ai pas vu ça.
Bah, tout d'un coup, il a dit.
Il a réalisé que c'était de la merde d'avoir signé cette tribune.
Du coup, peut-être qu'avant de s'exprimer publiquement pour défendre quelqu'un qui a des accusations. Ça vaut le coup de prendre un peu de temps avant de signer une tribune ou de parler en vidéo pour défendre un potentiel agresseur. Je pense que même si c'est ton ami, envoie-lui un message, va boire un café avec lui.
C'est pas un potentiel. Enfin, je veux dire,
en plus, c'est pas un potentiel. Et en plus, là, il y avait une vidéo. Quoi, donc c'était très osé.
C'est pas d'aujourd'hui que.
C'était
un moment qu'on entend.
Oui. Mais bon.
Après,
mais bon, les excuses sont acceptées quand même. Et oui, aussi improbable que
accueillir les excuses d'un Jacques Weber, parce qu'en plus, en effet, il est pas récent, le bonhomme. Donc, il n'a pas grandi comme nous, on a grandi non plus.
Non, mais
c'est
vrai que c'est...
Bah,
c'est
bien.
Et surtout, c'est important de dire qu'on peut recevoir ses excuses, parce que sinon, aucun ne va le faire. Oui. Aucun va s'excuser si on n'entend pas. Si on n'accepte pas le changement possible, on n'attend rien du coup.
Non, puis c'est toujours vachement bien d'entendre les gens se parler. Moi, on en a parlé d'ailleurs avec Bruno sur par rapport à toutes ces affaires-là. C'est surtout que moi, j'implore la justice de s'inventer, de continuer à s'inventer, parce que c'est là-dessus que j'ai l'impression qu'il y a un manque énorme. Et que quand je parlais de tous ces milieux en ce moment qui s'engueulent publiquement, c'est pas malsain, l'engueulade, puisqu'on voit bien que ça fait avancer. Il n'y a pas une famille de France qui ne s'est pas engueulée à Noël à propos de ça. Donc, ça veut dire que ça va dans... Moi, je pense que la société, elle est à l'heure. Tout va bien. Elle est relativement à l'heure. Elle est toujours un peu plus à l'heure que ces institutions qui, elles, doivent prendre le train,
souvent. Tu parlais d'éducation nationale tout à l'heure. La justice aussi.
Ça veut dire la justice. Ça veut dire comment elle se réforme, comment elle se réinvente, etc. Là, c'est urgent. Là, c'est urgent parce qu'on sait que c'est des affaires qui sont, comme les affaires familiales, c'est les plus dures à mettre en lumière, puisque ça se passe dans les murs d'une... Enfin, voilà, les trois quarts de ces affaires-là. Et il faut bien l'inventer. Il faut bien inventer un arsenal qui soit autre chose que ce qu'on a comme arsenal. Et la justice, elle n'a cessé de se compléter. Là, faut trouver, je ne sais pas comment... Mais il faut trouver une manière, comme dans certains pays, où ils l'ont fait, mais on voit bien qu'en Espagne, ils se prennent un sacré revers en ce moment. Mais il y a eu.
Pour ça, quand même.
Il y a
des gens dont c'est le boulot, normalement. C'est-à-dire que parfois, je me dis, quelle solution on pourrait trouver ? Je dis, mais en fait, c'est pas mon boulot. Enfin,
c'est pour ça que je te dis.
C'est l'expertise. Bah non, mais en même temps, toi, c'est la féministe qui apporte les.
Ouais, mais attends, il y a des gens
qui sont pas tous bien au courant.
C'est toujours un peu ce schéma-là. Les militants qui éclairent, la société qui comprend.
Et ensuite, seulement...
Et là, souvent, c'est ces moments très enrageants où le timing est toujours emmerdant, que ça passe dans les institutions, que ça passe dans les financements, que ça passe
et
dans
que,
les...
Et du coup, c'est
les...
long. Mais on en revient au même point. Tout est long, mais c'est comme ça, quoi.
On arrive à la fin, gentiment, à la fin du podcast.
Mais t'as pas répondu à des questions de Chip.
Chip, carrément.
Non, comment c'est Deep et pas quoi ?
Tu vois, ça t'intéresse pas, les questions de Chip. Fais pas semblant.
Il voulait que du Deep.
Est-ce qu'un prof a marqué ta scolarité ?
Oui.
Moi aussi.
Voilà. Merci. Allez, prof de quoi ?
Prof d'histoire de l'art et d'art plastique.
Ouais, moi, pareil, art plastique.
Ah ouais ?
Art plastique. Ah ouais, j'avais une prof que j'adorais. Ah,
souvent, c'est le prof. Mais comment ça a marqué votre scolarité ? Ça veut dire juste vous l'aimiez bien ou ça a vraiment un peu.
Non, c'était devenu un ami, Eric Pletty. Il est décédé il y a quelques années, là. Mais C'était la première fois qu'on avait un prof qui nous écoutait et qui osait débattre avec nous et parfois nous dire « mais vous êtes vraiment des petits cons en fait ».
C'était en quelle classe?
En première et terminale. Et il a dit « putain ». Et parfois il s'énervait « putain, mais vous êtes des petits cons, vous avez un melon, vous croyez que c'est comme ça ?» Et il avait une expérience de vie déjà qui faisait que, évidemment, que ça le mettait en colère. C'est lui qui a éveillé aussi nos goûts artistiques, qui nous a fait découvrir plein de choses, quoi, tu vois. Moi, Francis Bacon, j'avais pris une grosse claque et c'est Eric qui nous l'avait montré. Ouais, c'était un mec assez extraordinaire, ouais.
Et moi, mon institut, Françoise Reinbold, que j'adore, elle a réussi à garder un lien avec tous ses élèves.
De quelle classe?
Ah ben là, c'était en CM1, CM2.
Ah ouais.
Et on faisait des dîners. Alors on s'endimanchait un petit peu parce qu'on grandissait.
Un petit papillon.
Et puis elle est partie en retraite et puis elle m'a envoyé la vidéo. Mais c'est un film de la fin d'un film Good Movie qui c'est super, tu sais. Il y avait je sais pas combien de 3 générations de gamins qui ont été ses élèves, ses trucs. Ils ont chanté tout. Elle était géniale et pareil, méga compréhensive, plutôt sympa avec les mauvais élèves. J'ai eu du bol. Voilà. Et mais moi j'aimais bien aussi les mauvais profs un peu. Enfin, je trouve que c'est quand même un apprentissage de société. C'est pas grave en fait, t'as les super profs et puis l'heure d'après t'as celui où t'auras l'impression d'être avec le formulaire B12 et en même temps ça t'apprend aussi des trucs, tu vois.
C'est beau, c'est optimiste.
Non, je suis pas optimiste, mais je trouve que c'est ça, finalement, nous acteurs et actrices, ça nous a quand même inspiré aussi, ça nous a inspiré des natures, ça nous a forgé le caractère un petit peu, ça nous a ça nous a fait dire bah ça je veux plus jamais, c'est aussi ça un peu.
Il y avait des profs qui étaient pas très doués en tant que prof et que tu découvrais en sortie scolaire. Mais en fait il est hyper cool,
c'est une comme dans Fame. Sympa, mais un mauvais prof.
Ouais c'est ça. C'était un peu comme dans Fame.
Bah oui, la prof d'anglais, elle est méchante avec Leroy et puis en fait elle est pas si méchante.
Et bah tiens, pendant qu'on parle de films, la dernière petite rubrique du podcast, c'est le top flop culture. Ça veut dire quelque chose que vous avez vu, lu, écouté récemment, mais qui n'est pas forcément récent, mais que vous avez aimé ou pas aimé, parce qu'on a le droit de râler, d'être pessimiste.
Bien sûr.
Si on a envie.
Moi, hier, j'ai vu May December.
Oh non, t'as aimé. Parce que là...
Non, je ne sais pas ce que j'en ai pensé, en fait.
C'est un film, le dernier film de Todd Haynes.
Je suis sorti, j'étais...
On a parlé hier pendant une demi-heure, on s'en remet pas.
Non mais pareil, moi je ne me suis pas encore remis en fait.
Moi je crois que c'est le plus mauvais film que j'ai vu depuis un paquet de temps.
Mais c'est terrible, non? Qu'est-ce qu'il raconte ce film en fait?
Qu'est-ce que raconte ce film?
Mais c'est ça en fait.
L'histoire pour Alex que nous on...
L'histoire, c'est une histoire vraie qui s'est passée. C'est une meuf qui travaille dans un pet show, qui avait une famille... Un pet shop. Une animalerie. Il y avait un jeune stagiaire qui avait 13 ans et elle s'est tapé ce môme de 13 ans et elle a fait de la prison pour ça parce que c'était juridiquement pas possible et elle était enceinte de ce môme et elle a fini sa vie avec ce môme.
Elle a fait de la prison.
Elle a fait 3 enfants avec lui et tout. Et l'histoire, elle est jouée par Julianne Moore et l'histoire, c'est que Nathalie Portman est une actrice très connue et ils vont adapter l'histoire de cette meuf et elle vient
dans sa vie
pour s'inspirer pour le personnage. Et d'ailleurs son personnage, Nathalie Portman, c'est très chelou,
c'est
non
trop
un
chelou.
Peu deg.
Et du coup dès le début, enfin Justine en fait, ne trouve que pas dès le début. Moi,
c'est l'histoire
début,
de Godrèche mais à l'inverse quoi, tu vois. C'est un peu
c'est une emprise. Mais c'est pas tellement ça qui est raconté
non,
dans le film.
Très
le but
bizarre.
C'est pas tellement de juger est-ce que c'est une emprise ou pas.
Et tu ressors un
c'est
peu
vraiment de voir comment cette actrice et la musique.
La musique est...
La musique de Faites entrer
t'as
l'accusé.
T'as fait une grimace de pas aimer cette musique,
oh,
toi.
En fait, c'est vraiment le thème de Faites entrer l'accusé, de Michel Legrand. C'est vraiment... Donc c'est...
Et puis tout le temps, elle ouvre le frigo.
Et
il manque des yaourts.
C'est horrible.
C'est très, très curieux. On dirait une parodie.
On dirait une parodie.
Mais même le jeu est très bizarre.
Donc c'est un flop, celui-là, pour toi.
Mais un good film que j'ai adoré... C'est Past Lives.
Ah bah oui, on l'a vu nous aussi.
Quelle merveille.
Ouais,
quelle
merveille. Vous regardez plein de trucs.
Vas-y, pitch.
Et j'ai aussi adoré...
Attends, pitch. Je suis curieuse de savoir comment tu veux pitch Past Lives.
Past Lives, c'est un rendez-vous amoureux qui ne peut pas avoir lieu en fait.
Oh, c'est beau.
Et qui n'est pas au bon moment. Et ça parle aussi un peu de vie. Tu sens que c'est des gens qui, dans une autre vie, ont dû vivre une histoire d'amour folle, qui se sont retrouvés séparés, leur vie, elles ont continué, ils veulent se retrouver, mais c'est pas possible.
T'es au bord de pleurer.
Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on parle on raconte pas la femme, est-ce qu'on parle de cette femme, on chiale
Oh là là là.
Mais toi, je te connais, tu vas être là. Tu vas au côté.
C'est d'une beauté. Et les plans et tout.
Bruno et moi, on est des pleureuses corses.
Ah oui.
Ah la vache.
Non, mais tu vas au côté, mec.
Et t'as vu aussi Perfect Days ou pas?
Bien sûr. C'est merveilleux ou pas? Ah ouais, bien sûr.
C'est magnifique.
C'est merveilleux. Wim Wenders. Le dernier film de Wim Wenders. Le mec, il a plus rien à prouver cinématographique. Enfin, c'est un maître. Wim Wenders, c'est un maître.
Bah, il se passe rien et tout.
Non, mais tout. C'est comme ça. Et toute la vie est là.
Oh là là.
Toute la résilience.
Ça m'a fumé. J'ai pleuré tout le film.
Ouais, tout le long.
J'étais déjà très triste.
J'ai ri aussi.
Moi, j'aime bien aller voir des films tristes en étant déjà triste.
Mais ce film, il n'est pas triste.
Moi, je trouve que c'est...
Non, c'est beau. C'est juste beau.
Ouais, c'est magnifique.
Et juste.
Ouais, putain. Ouais.
Et toi, Alex?
Alors, moi, j'ai un livre qui m'a surpris qui s'appelle « Son odeur après la pluie ». Et c'est sur un chien, le mec raconte son chien.
Ah oui, on n'a pas beaucoup parlé de ce bouquin.
Ça m'a rétamé la gueule.
Oui, apparemment, ouais, c'est génial.
Il parle que de son clébard. La plume est super, c'est sublimement écrit. C'est super bien. Amoureux de la nature et tout, mais c'est pas non plus tout d'un coup je découvre une écorce d'arbre. Voilà, c'est dans les Alpes, comme ça, avec ce bouvier bernois dont il dit tout de suite ça va vivre 9 ans, cette histoire-là et tout. C'est super bien.
Oh, je le veux.
Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et au départ, je me suis dit, oh là là, il empoule un peu son écriture. Et en fait, non, pas du tout. C'est chouette.
Non, on m'a dit que c'était génial.
Non, mais ça a 6000 ans, Marriage Story, moi, qui est quand même un truc qui m'a bien rétamé la gueule.
Mmh. Ah, le film Netflix avec Adam Driver et Scarlett Johansson.
Je trouve qu'en jeu, il y a des trucs.
Faudrait que je le revoie.
Oh là là, l'engueulade de fin, ce divorce qui essaye de se faire dans une espèce de. Et puis, on parlait des machines administratives et tout, ce divorce qui veut bien se passer. Mmh. Et puis, tu as la machine administrative, enfin juridique américaine, qui est très compliquée parce que c'est que de la jurisprudence. C'est à l'inverse de nous, tu prouves l'inverse
de présumé coupable.
Oui. Vraiment. Donc, c'est vachement intéressant comment dans un divorce. Ils ressortent tout, ils mettent tout en place pour abîmer l'autre et comment ça les abîme quand même et tout. J'avais trouvé ça dément. Qu'est-ce que j'ai bien aimé
Petite liste.
Voilà. Non,
moi, je me fais tous les Christian Bobin en ce moment.
Je sais pas ce que c'est.
C'est un auteur qui est fantastique, qui est décédé il y a pas longtemps. Mais c'était un mec qui écrivait, c'est un grand poète.
C'est des romans? Ah, des poèmes.
C'est de la poésie, c'est romancé, c'est un peu déconstruit parfois, c'est ce qui lui vient, tu vois. C'est un peu de l'écriture automatique parfois. C'est extrêmement bouleversant, c'est un mec, un visionnaire, un mec qui a compris la vie, je sais pas comment t'expliquer. Mais il a le regard d'un poète, quoi, tu vois.
Ouais.
Tu adorerais. Tu hop connais
là, je vais regarder.
Hey, hop là.
L'amour et les forêts, moi j'aime bien j'ai adoré ce film.
Oui, c'était très bien.
J'ai trouvé ça
mais
super.
Mais il est déjà sorti il y a un moment.
Mais en ce moment, il est, je sais pas de quoi, un regardage.
Il est quelque part sur les plateformes. Tu l'avais vu ou pas?
Non, j'ai toujours pas vu.
Il est vraiment dément.
J'ai vu les chiens de Melville Poupeau, malheureusement. Mais...
J'ai vu les chiens de la casse, là.
Ah, chiens de la casse, c'est bien.
Chiens de la casse, c'est génial.
C'est fort, hein?
C'est bien.
Ah oui, c'est très très bien.
Putain, un canard, tu le détestes, quoi.
Ouais,
c'est super. Et en même
temps. Mal à l'aise.
Ouais, oui.
Et on les a tous connus. Enfin, moi, j'en ai connu beaucoup des mecs comme ça.
Bien sûr.
Chien de la casse, c'est super.
C'est vraiment super.
Bajon qui est dément.
Ouais, il était
dément. Petit César du premier film, à mon avis.
Mais Bajon, il est incroyable parce qu'il va être joué Cool Chain.
Ah ouais.
Où il est hyper crédible.
Il est bien.
Par la série NTM. La série NTM, elle est vraiment géniale. Et d'un coup, il y a ce mec qui est avec son pote complètement effacé, introverti. Et tu dis, putain, Bajon, mais.
Ouais, il est bon.
Ouais, très fort.
Mm. Petit moment promo, une nuit sur Canal Plus.
Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé.
Il y a ce film extraordinaire qui a été réalisé par la
actuellement sur Canal Plus depuis deux
semaines. Une nuit
avec Karine Viard.
Qui est fantastique.
Et Noémie, elle fait pas un petit.
Et Noémie, j'allais vous parler de son spectacle qui est super. Elle a un super rôle dans le film. Elle est super. Et son spectacle est brillant.
Mais j'en ai parlé, l'harmonie des gens dans
il est super, son spectacle. Il est super.
Faut que j'aille le voir.
Ouais, et tu vois, on parlait de confort, d'inconfort. Bah, tu passes ton temps dans. C'est ça qui est super. Tu passes ton temps dans le spectacle à te faire. Oui, super.
Elle est très forte, Noémie.
Et c'est beau parce qu'elle prend la main et en même temps, il y a juste le bonheur. Et puis elle, c'est beau parce que elle triche pas avec son parcours, avec tout son chemin, Noémie, tout son chemin, on parlait d'éveil, et ben c'est long tout ça et c'est super
sincère.
Et je trouve ça génial et c'est toujours beau à voir des gens qui
jouent.
Elle joue au Mathurin avec des super musiciennes.
Ok.
Et elles sont une petite troupe
à 19h,
petite bande à Basile.
Je ne connais pas son horaire.
Non, il a dû passer à 20h maintenant, je pense.
Ok.
Bon.
Bref.
Attends, moi j'ai un petit conseil. Moi j'ai regardé sur Canal la série Fellow Travelers.
Vous dites que des trucs anglais vachement doués, vous êtes doués.
Oui,
très bien.
C'est une série qui... Alors, le pitch, ça démarre dans les années 50. C'est une histoire d'amour entre deux hommes, voilà.
Voilà. Ça s'appelle comme ça, alors. C'est une série, c'est pas un film.
Non, c'est une série.
Attends, j'en parlais à un pote hier, j'arrivais pas à retrouver.
C'est avec Matt Bomer, je crois, et Anthony quelque chose, un gars qui jouait dans Bridgerton. Putain. Ouais, ils sont beaux tous les deux. Ils sont très beaux tous les deux. Et en fait, ça démarre dans les années 50 pendant le McCarthyisme, ouais, qui était donc la chasse aux sorcières. En fait, je connaissais pas beaucoup, donc vraiment, je m'accrochais. J'allais sur Wikipédia en même temps pour comprendre le.
Ah bah là, on parle de patriarcat aux États-Unis. C'est l'enfer.
Le McCarthyisme, c'était donc un gars, McCarthy, un sénateur, qui est arrivé en mode, il faisait la chasse aux communistes. Ouais. C'était et aux homos. C'est vraiment les deux personnes, enfin les deux types de gens à tuer, enfin ou à éliminer de la société, quoi. Et donc évidemment, histoire d'amour entre deux hommes à ce moment-là, dans
ils étaient pour les bienvenus.
Ils travaillent pour le gouvernement, donc c'est compliqué. Et en fait, ça se passe sur plusieurs années. Ensuite, ça finit dans les années 80, la montée du sida, ouais. Avec tout le sida qu'a fait le. Et du coup, c'est dans les deux cas, c'est triste. Ouais, j'ai fini. J'ai fait que pleurer.
Moi, j'ai commencé là.
Chialade.
On chiale parce que.
J'aime bien les trucs de chialade.
Que des recos chialades.
En fait, c'est forcément bien sûr. Il y a toute la tristesse. Mais moi, ce qui me bute à chaque fois dans les histoires, notamment homosexuelles, qui sont très souvent contrariés encore aujourd'hui, mais encore plus évidemment à l'époque où c'était carrément interdit par la loi, c'est que t'as très souvent les deux archétypes, qui est l'homosexuel un peu plus assumé, qui va faire un parcours peut-être plus qui va être émancipé, hors du placard. Pour lui aujourd'hui, ce sera plus dur. Enfin, dans les années 50, c'est plus dur, mais au fur et à mesure, c'est entre guillemets plus facile parce qu'il est hors du placard. Et à l'inverse, celui qui est dans... qui a un passing hétéro, qui a une femme, des enfants, et qui en fait est plus malheureux. Enfin, alors qu'il pense garder une stabilité de vie et être plus heureux, et au final, tu te rends compte que
il n'est pas qui il est.
C'est vraiment lui le plus malheureux, ouais. Au final. Et à chaque fois, ça me bute. Je suis là, genre, mais pourquoi vous refusez-vous le bonheur?
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Et ça s'appelle comment?
Tu veux que je le redise, que t'aimes
mon accent? Ouais, parce que j'adore ce accent.
Fellow Travelers.
Ok.
Fellow Travelers.
Je vous recommande Nudes. Donc, c'est sur le revenge porn qui consiste à donc diffuser des vidéos ou photos de personnes nues sans le consentement sur Internet. Et voilà, ça en parle très très bien. Et notamment, les 4 premiers épisodes réalisés par Andrea Bescon suivent le mec qui a fait ça. Donc, on est vraiment à travers son prisme à lui. Et c'est très intéressant d'être dans le prisme de l'agresseur, en fait. Enfin, y a un truc...
Et puis, Andrea a dit qu'elle était heureuse de pouvoir travailler sur ce prisme-là et de défabriquer aussi la notion de monstre.
Exactement.
Où effectivement, c'est d'ailleurs ce qui est difficile actuellement. En gros, le schéma du terrible déguisé dans un parking qui agresse, et le reste qui serait je ne sais pas quoi.
C'est
juste un mec lambda.
Lambda qui s'amuse avec ses potes, et il y a des conséquences.
Sont très graves. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle en parlait. Et je crois qu'il marche bien, le nu.
Franchement, c'est très bien.
C'est sur quoi? C'est
les Amazon.
Sur Prime.
Ouais. C'est vraiment très bien. Les trois histoires sont très chouettes. C'est un peu dur, quand même.
Ça joue bien.
Parce qu'on suit des ados, quoi. Et puis, surtout dans les deux autres histoires, c'est vraiment des très jeunes ados. Et là, on est de leur côté à elles. Du coup, c'est vraiment dur. Mais je pense que c'est d'utilité publique, cette série. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est adorable de nous avoir accueillis.
C'était trop bien. Ouais. Merci, les amis. À bientôt.
Merci, les filles.
Merci. Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro. Merci, bye.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.